Merci de nous y écouter. Acteur humanitaire, qui êtes-vous? Acteur humanitaire, qui sommes-nous? 18 et 19 décembre dernier, à Boulia, des ONG du domaine humanitaire étaient face au grand public. Il s'agissait de montrer ce que fait un acteur humanitaire ou une ONG humanitaire, et surtout l'impact des opérations humanitaires sur la population locale. Entre-temps, une occasion de souligner que lorsque les agences humanitaires sont sur terrain, il y a beaucoup de difficultés qu'elle rencontre. Nous allons prendre le cas d'une ONG Agroaction Allemande à Bounia. Cette ONG a réhabilité la route Bounia-Kasséni-Tomia. Godelive Omondo est sur place à Bounia et on en parle avec elle. Godelive, bonjour.
Bonjour Walter.
Pouvez-vous nous situer, ou si vous voulez nous décrire un tout petit peu cette voie Bounia-Kasséni-Tomia et nous dire surtout ce qu'elle était avant la réhabilitation, soit pendant les événements qui ont déchiré le district de Litouri.
Oui, Walter, la route Bounia-Kasséni-Tomia est située au nord-est plutôt de Bounia. Cet axe de 64 km est l'un des plus importants pour l'économie de Litouri. Et à partir de cette route, la cité de Bounia est ouverte au lac Albert, partant de celle-là de l'Ouganda. Et elle est reliée également du côté nord et sud par Mahagi, ainsi qu'au nord, Kivu. Eh bien, Walter, il y a quelques années de cela, disons pendant les différentes guerres qu'a connues cette région, cette voie est restée impraticable, ce qui a fait que la route puisse se rétrécir à environ 2 mètres et à certains endroits même le passage était presque inexistant. Et c'était presque le cas aussi pour toutes les routes qui ouvrent Bounia aux autres localités du district. Les échanges comme ça commerciaux entre les localités étaient alors coupés et aussi Bounia, le chef-lieu du district, était enclavé et aussi dépourvu des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.
Godelive Omondo, pouvez-vous nous dire quel est l'état actuel de la route Bounia-Kasséni-Tomia?
Aujourd'hui, cette route de desserte agricole est totalement praticable. Elle a été réhabilitée par l'ONG internationale Agroaction Allemande, AAA. C'était en collaboration avec la MONUC. L'ouverture, Walter, de cet axe, comme je le disais tantôt, est d'une importance capitale pour d'abord l'économie des Bounia et aussi pour toute la région en général. La remise donc en état de cette route a permis également de rapprocher les communautés longtemps séparées. Les commerçants qui utilisent ou usagent de cet axe, Bounia, Kasséni, Tomia, et aussi certains habitants de Bounia apprécient l'effort des AAA pour la réhabilitation de cette voie. La population paysanne aujourd'hui n'a plus de problèmes pour évacuer les produits agricoles vers le grand centre de consommation comme Bounia. Si on peut suivre les témoignages de ces commerçants.
Par rapport à ça, zamani sasa njia inakuwa mzuri sana. Juu kwa namna tu kunaenda, unafika Tomia, unauzisha marchandise yako mzuri, unapanda, unauzisha huko, kisha tena unapata mwae tere, unateremuka, unaenda kutafuta marchandise yako nyingine. Kugawa namna mbele tena sasa haiko. Sasa iko mzuri sana. Mbele tulikuwa toka watu wafaa siku mbili bi siku moja kunjema. Na siku tu natoka hapa na tunaingia Bounia BS, ni tunaingia Tomia mzuri sana. Sasa zamani sasa chakula hairibiki kunjia, kwa samaki, kwa viazi, kwa mwindi wala ndizi yote unafika sawa kisitoka kuvunja.
Ce qu'on peut retenir de ce témoignage, c'est que peu avant la réhabilitation de cette route, il pouvait faire 2 à 3 jours pour atteindre Tomia. Mais depuis sa réhabilitation, en un jour, les opérateurs économiques peuvent atteindre Tomia sans aucun problème parce que la route est praticable. J'espère avoir bien traduit ce témoignage. Godelive, revenons alors à la réhabilitation. Vous avez dit que le projet a été réalisé par l'ONG Agroaction Allemande avec la collaboration de la MONUC. Pouvez-vous nous dire ce qu'a été la part de participation de la MONUC dans la réhabilitation de cet axe routier?
Mais si on peut parler de la contribution de la MONUC, donc avec ses ingénieurs de contingent népalais et uruguayen, leur machine a facilité donc les travaux de compactage et aussi d'ouverture des chaussées, comme le dit Marco Donati de la section droit de l'homme, de la section plutôt des humanitaires MONUC Bounia.
Alors, la MONUC a été impliquée avec la section des ingénieurs et en particulier avec la compagnie d'ingénieurs de contingent uruguayen et après du contingent népalais. On a travaillé sur la route Bounia-Chomia-Kasseni justement pour faciliter l'appui logistique aux troupes de la brigade qui étaient déjà déployées à Kasseni-Chomia et aussi pour, disons, faciliter la réouverture d'un axe commercial très important qui donne, disons, plus ou moins directement accès au lac Albert et donc à l'Ouganda indirectement. La MONUC, comme je dis, s'est engagée avec les compagnies des ingénieurs de différents contingents sur l'axe Bounia-Bogoro avec les Uruguayens et sur l'axe Bogoro-Chomia avec les Népalais, qui ont utilisé l'équipement dont ils disposent, donc des machines pour compacter, ouvrir la route. Ils ont fait ça en coopération étroite avec l'ONG Agroaction Allemand, qui par contre avait la possibilité d'engager donc des ouvriers qui pouvaient compléter tout ce qu'il faut faire effectivement pour maintenir la route ouverte, faire le système de canalisation pour, disons, permettre une certaine durabilité à la route elle-même.
Godly Vomondo, on vient d'entendre Marco Donati de la section des affaires humanitaires MONUC à Bounia. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler depuis quand l'ONG Agroaction Allemande est opérationnelle à Bounia?
Oui, l'ONG Agroaction Allemande est opérationnelle depuis 2000 à Bounia, Walter.
Eh bien, quel était l'objectif de cette ONG à intervenir à Bounia?
Oui, en premier lieu, l'ONG Agroaction Allemande était venue à Bounia juste pour aider les paysans pour l'agriculture, mais il s'est habité à un grand problème, c'est-à-dire une difficulté de ne pas atteindre ces gens-là. C'est pourquoi il s'est donné pour le moment à la réhabilitation de ces routes pour que les paysans puissent accéder aussi au marché pour l'évacuation de leurs produits de champs, comme je l'avais dit tantôt.
Mmh. Mais alors, réhabiliter une route, c'est bien, mais est-ce que Agroaction Allemande a pensé maintenir cet ouvrage à bon état en organisant notamment une structure de suivi de l'état de la route?
Oui, la route a été déjà remise officiellement par AAA aux différentes communautés, si on peut citer quelques-unes. Il y a les Bira, les Ngiti, les Ema, le Lendu, les Gegere qui vivent le long de cette voie. Et celles-ci se sont organisées, elles ont mis sur pied une commission de maintenance, cela pour garder la route en état. Alors, plus de 60 cantonniers payés par les usagers sont donc employés à cette fin. Et bien, c'est la confirmation aussi de l'administrateur de la commission de gestion routière, Alex Losindu Djumanzadu.
Bon, nous avons le système de cantonnage manuel. Nous avons des sites de Délé, de Cotonou, de Zumbé, et le site de Bogoro, le site de Mangé, Kasseni et Chomia, et lesquels sont coordonnés par un conducteur de travaux. Alors c'est déjà là-haut des travaux spécifiques, de remblage, de curage des caniveaux, des herbes, et puis s'il y a des éboulements, ils arrivent vite, ces désordres-là, ou ces tas de cailloux sur la route. S'il y a un arbre qui tombe, vite, doivent couper l'arbre pour dégager le passage. Et ils ont encore une autre mission spécifique, c'est celle de sécuriser la route. Même une maman qui cherche du bois quelque part, quand elle crie, il faut que les cantonniers filent. C'est dans ce sens-là. Donc, notre maintenance est une maintenance un peu socialisante. Donc, c'est le péage essentiellement. C'est l'unique source pour nous d'un petit financement pour aider nos cantonniers.
C'est par catégorie d'engins ou quoi?
Bon, Majurus, si vous avez 10 mots, tonnage 20 à 30, vous avez $30. 19-24, vous avez une affaire de $20. Vous avez des petits véhicules comme 9, Mercedes 9-11. Ou 13, 14, là c'est juste 15 tonnes, et puis vous payez $15. La voiture c'est $2, et les minibus et les stouts c'est 2,5, et la moto c'est $1, c'est tout. Les vélos, nos assauts de piétons, nous on ne s'occupe pas de ces gens-là, ces gens-là roulent librement sur cette route.
Et voilà une certaine organisation pour essayer de remplir la caisse d'entretien, d'aménagement de cette route. Godly Vomondo, ça va être ma dernière question. On sait très bien que la route Bounia Kasséni-Chomia n'est pas la seule voie importante autour de Bounia. Quelles sont les autres routes autour de Bounia, des routes qui sont de grand intérêt, qui sont inscrites sur le programme de réhabilitation?
Oui, d'autres routes de desserte agricole sont en réhabilitation également par AAA, notamment les routes Bounia à Zeba et aussi Solenia-Mabloukwa. Et vous voyez là, Walter, lentement mais sûrement, le district de l'Ituri est en train de se désenclaver. Il ne reste plus qu'à les relier au district du Bas-Uélé et aussi à la ville de Kisangani, Walter.
Bien, merci à Golivo Mondo. On aura un peu plus de détails sur cette question avec notre invité qu'on va recevoir dans quelques instants, Monsieur Tandema Dieudonné, qui est administrateur chargé des routes et des liaisons auprès de l'ONG Agro Action Allemande. Pour l'heure, je vous remercie au nom de tous les auditeurs de nous avoir fourni toutes ces informations. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Bounia et déjà, bonne année, joyeux Noël, Godlive.
Merci beaucoup, Walter, à vous autant.
À bientôt. Les auditeurs peuvent intervenir en appelant au 081 890 68 90.
Okapi.
Okapi, à Bounia sur 104.9 FM.
Okapi Action, nous poursuivons en détail, un peu plus en profondeur, le premier sujet de ce magazine, à savoir la visibilité des actions des organisations non gouvernementales qui interviennent dans le secteur humanitaire. Et nous avons pris le cas d'une ONG qui s'appelle Agro Action Allemande, qui intervient à Bounia. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bounia Monsieur Dieudonné Tandema. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes administrateur chargé des routes et des liaisons au sein de l'ONG Agro Action Allemande. Vous êtes opérationnel à Bounia. Votre premier objectif, c'était l'appui au secteur agricole. Aujourd'hui, vous réhabilitez des routes. Pourquoi?
Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Nul ne peut prétendre ne pas percevoir l'importance de la route. De prime abord, c'est un mécanisme de communication, pour ne pas exagérer, d'une importance cruciale. Voilà l'objectif qui a orienté Agro Action Allemande à pouvoir intervenir dans ce domaine.
Mais il était prévu que vous puissiez appuyer les structures agricoles. À quand peut-être le début de cette opération qui rentre aussi dans les cahiers des charges de votre ONG? Mais oui, je voudrais savoir à partir de quel moment Agro Action Allemande va s'occuper des agriculteurs à Bounia.
L'ONG Agro Action Allemande, c'est à partir de l'année 2000, lorsqu'il s'est intervenu sur le terrain pour pouvoir assister les familles vulnérables, c'est-à-dire les familles qui étaient sensiblement touchées par les atrocités de guerre que l'Ituri avait connues. Agro Action Allemande a bien voulu orienter ses actions dans un premier temps, un pacte rapide, pour pouvoir aider ces sinistrés. Depuis le mois de juin 2003, avec l'arrivée de l'Artemis, il y a un calme apparent qui s'est introduit dans les districts de l'Ituri. Agro Action Allemande a préféré plutôt changer dans le cadre de la philosophie de ces actions pour une intervention à impact vraiment consistant, d'aller plus vers les agriculteurs, étant donné que l'Ituri est un milieu à caractère agricole, à préparer une intervention très solide pour pouvoir aider les agriculteurs.
Alors, monsieur Tandema, aujourd'hui, on a entendu des témoignages des opérateurs économiques, même de certains agriculteurs. La route Bounia-Kasséni-Chomia est praticable. Il y a un péage qui est organisé. À quoi servent les recettes de ce péage?
Vous savez que la route a été réhabilitée par Agro Action Allemande. Aussitôt après sa réhabilitation, Agro Action Allemande avait préféré céder, donc rétrocéder plutôt la route aux communautés logeant le lot de ces taxes pour pouvoir prendre la relève, en fait de garder la route à l'état où elle a été réhabilitée.
Mais alors, vous n'avez toujours pas dit à quoi servent les recettes du péage.
Ah voilà. Les recettes du péage servent effectivement pour pouvoir payer les cantonniers qu'on a engagés sur la route, étant donné que je vous avais dit que la route a été rétrocédée donc aux communautés locales, et ces communautés n'ont pas un budget qui a été déterminé pour pouvoir intervenir dans le cadre de la maintenance. Et c'est plutôt le péage qui intervient maintenant, et ces recettes sont là effectivement pour pouvoir aider les cantonniers qui sont effectifs sur la route.
Pendant que nous y sommes, si vous pouvez légèrement éloigner le combiné du téléphone de votre bouche parce qu'il y a saturation. Et je vais vous poser cette autre question. Cette route, c'est vrai, elle est d'une très grande importance, mais elle va dans un sens précis. Est-ce que Agroactuallemande est en train de réhabiliter des routes dans d'autres axes en dehors de celui-là?
Effectivement. Agroactuellement n'a pas seulement intervenu pour la réhabilitation de cet axe Bounia Chomia via Kassegni, l'organisme a même intervenu pour la réhabilitation au nord de la ville de Bounia sur l'axe Solenia Mabloukwa et au sud de la ville de Bounia sur l'axe Bounia Bogoro Aveba.
Et qu'en est-il de l'axe vers Beni?
Et vous savez qu'il n'y a pas que Agroaction Allemande. Il y a beaucoup d'organismes qui sont intervenus dans le domaine de la réhabilitation. Il y a d'autres organisations non gouvernementales de développement à caractère international qui interviennent aussi sur cet axe-là.
Mais quelle est la participation des populations locales dans les travaux de réhabilitation de ces axes routiers, disons ceux-là que réhabilite Agroaction Allemande?
Vous savez que aussitôt après avoir connu toutes les agitations de guerre, nous sommes allés plus vers les communautés locales pour leur donner du travail, afin que les schématales qui étaient donc insérés dans leur tête, plus petit à petit diminuer, donc plus en travaillant, vous voyez que quelque part, les dix qu'on perçoit de son travail constitue une source de dépendance très importante dans les facteurs de la pacification, de la réunification. Et vous voyez que nous jouons un rôle assez important, donc en mettant toutes les ethnies qui étaient en conflit ensemble. Et quelque part, effectivement, il y a des résultats palpables sur le terrain. Et voilà la participation de la communauté comme étant une main d'œuvre source nécessaire pour pouvoir faire le rapprochement des communautés.
Une dernière question, monsieur Diédonné. Qu'est-ce que les habitants des Bounia peuvent espérer, disons, reçoivent déjà, voient dans leur marché qu'il provient de Chomia et de Kassegni grâce à cette route qui a été réhabilitée?
Vous savez que les jours où les habitants de Bounia avaient appris que l'axe Bounia-Kassegni était déjà touché par AAA dans le cadre de la réhabilitation, je vous assure que 90% de la population itourienne avait applaudi cette action. Et les jours où OIAI a inauguré cet axe, je vous assure que si le marché de Bounia, par une simple petite curiosité, vous vous rendrez compte donc de tous les témoignages, il y avait abondance de denrées alimentaires sur le marché. Des Kassegni vers Bounia, les denrées alimentaires qui continuaient encore à être stockées, à traîner, à subir des détériorations dans les dépôts, vraiment avaient connu une importance, disons, quelque part, il y avait une évacuation massive de ces denrées alimentaires. Et si le marché, le niveau de vie, le niveau de la pauvreté avait semblé vraiment sensiblement rabaissé.
Voilà, merci beaucoup. Vraiment merci, Tandema Dieudonné. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes administrateur chargé des routes et des liaisons auprès de l'ONG Agro Actuellement. Merci beaucoup d'avoir retardé votre descente sur terrain parce que vous devez vous rendre sur les sites des travaux. Donc vous avez d'abord accepté de venir nous parler de ce beau projet que vous menez dans cette zone. On sait que Agro Actuellement intervient ailleurs aussi, à l'est de la RDC. Ça, on en parlera très prochainement. Nous vous en remercions et vous souhaitons temps de passer une très excellente journée de travail sur les sites de vos interventions.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. Radio Okapi, Okapi Action, chez vous, pour vous faire vivre les réalités quotidiennes à travers la République démocratique du Congo, notre pays, situé très stratégiquement par rapport à la ligne de l'Équateur. Nous sommes au cœur de la cuvette centrale, au cœur de l'Afrique. Notre pays est drainé par le fleuve Congo, des milliers de rivières, au moins 8 lacs importants. Tous ces cours d'eau sont poissonneux. Il y en a, nous avons même le lac le plus poissonneux d'Afrique parmi nos lacs. Le poisson congolais, malheureusement, n'est pourtant pas régulier dans les ménages de certaines villes. Les Quinois, par exemple, consomment davantage le Thomson, ou Piodi, si vous voulez, ou Chinchard. Ça dépend de l'expression que vous préférez, mais ça veut dire la même chose, ce poisson surgelé qui vient de l'extérieur du pays. Pourquoi les poissons importés sont-ils prisés à Kinshasa, à Lubumbashi même, on commence à l'apprendre. Le poisson congolais commercialisé est le fruit d'une pêche artisanale, donc conséquence pas quantité suffisante pour nourrir toutes les bouches. Mais malgré ça quand même, il y a un engouement plutôt vers les poissons importés que vers le poisson congolais. On va en parler avec Sylvie Souna qui a fait une enquête là-dessus. Elle s'est rendue dans une bourgade piscicole. Kinkole, à Kinshasa. Sylvie, bonjour. Alors, le micro de Sylvie est ouvert cette fois-ci. Merci beaucoup.
Je vais peut-être resaluer Alter.
Mais Sylvie, bonjour et tous bonjour, nos auditeurs. Alter. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous avez mangé beaucoup de poissons. Non, bon, peut-être on saura tout à l'heure.
Je ne saurais pas maintenant.
Ah, mais non. Est-ce que vous avez découvert des belles choses sur terrain? Dites-nous ce que vous avez vu dans cette bourgade piscicole qui s'appelle Kinkole.
Comme vous venez de le dire, Alter, Kinkole se trouve dans la commune de Lancelé. Nous avons rencontré des pêcheurs sur la rive donc gauche du fleuve Congo. Il était à peu près 9h du matin et ils venaient de la pêche. Celle-ci n'était pas très fructueuse parce que selon eux, la période ne s'y prête pas. À cause de la saison de pluie, il y a tellement d'eau que les poissons, ils n'arrivent pas à pêcher du poisson. Mais ils y sont revenus avec quelques poissons quand même. Pour décrire le lieu, je vous dirais, Walter, que nous avons trouvé tout le long de la rive de nombreuses pirogues. Et juste à 100 mètres de cette rive, il y a un marché. Aussitôt arrivé, les pêcheurs vendent leurs poissons à des mamans qui à leur tour les revendent aux personnes qui viennent à Kinkole pour s'en procurer. Et à côté, il y a des restaurants de fortune qui sont installés. D'autres femmes préparent du poisson qu'elles revendent à ces mêmes pêcheurs.
Des mabokés aussi.
Des mabokés, des poissons grillés et tout. Donc, les pêcheurs, ils vont, ils pêchent, ils les vendent aux mamans, les mamans qui leur préparent et qui les revendent.
Alors, c'est une activité, c'est un commerce triangulaire autour du poisson.
Nous avons d'ailleurs trouvé l'ambiance très très bonne. Vraiment, c'était bien. Excusez-moi pour...
Vous avez touché le bras du micro, c'est pas grave. Mais il faut dire que c'est du poisson frais et c'est du beau poisson dans le fleuve Congo. Mais alors, on continue à se poser la question, pourquoi les Quinois n'en consomment-ils pas beaucoup?
Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. Le poisson coûte assez cher lorsque nous nous sommes rendus là-bas. Imaginez-vous qu'un poisson de la taille d'un Thomson, c'est pas très grand. Hein. Si les Congolais peuvent imaginer, le poisson Thomson,
ils ont 15 centimètres.
20 plus, c'est comme ça qu'ils appellent, à peu près 20 centimètres, comme vous le dites, peut coûter 1000 francs congolais. Et un gros poisson, 3000 francs congolais, voire même 4000. Et or, on sait qu'une rame de Thomson avec 64 poissons coûte 4300 en raison de 10 dollars. Vous comprenez un peu, le choix est clair. Le poisson est peut-être frais, mais les Quinois, ils voient la quantité et non la qualité.
Et par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais pourquoi est-ce que le poisson qui est pêché dans le fleuve Congo, autour des Kinkole ailleurs, coûte si cher?
Ce poisson qui est pêché sur place, qui ne paie aucune taxe par rapport aux poissons qui sont importés d'ailleurs, coûte assez cher. Nous avons posé cette question aux pêcheurs. Voici les raisons qui nous ont avancées.
This is ma panga the mona da share po biloko bisale li ya singani ya na fila ba bisale li ya robo ma mbisi yango ndu eranda ka mbisi chef net fila ne bulu wana boloka koloto ko 1800 ba 1000 fois bulu singana bo ba fila msu sona bo ka ba importer za na ba 1800 1500 bo yango na tango za kusala ba bilen sona bo yango na mtu isa ka ngu na stable
ce qui ba za ko pesa bi na mbisi ngeza acheter.
Bon, ce qui va pécher sur le gouvernement, vous achèrez mieux.
et bien ça me surprend à bah filer mon salaire avant toi y'a un alico tout le monde qui va devoir s'affiler bah et pour t'arriver t'as à peu près combien pour installer bon ça la filer pour installer à peu près combien
bon à peu près ça dépend à filer ne tout ça là quand
même moulaï wana
y'a moulaï wana ou comme mouchaka monta net et filer mouchaka ne vaut bah 200 dollars 150 dollars 200 dollars.
Mais voilà, ce pêcheur parle d'un filet qui s'appelle Mouchaka. Est-ce que vous l'avez vu, Sylvie? À quoi ça ressemble?
Avant même que je n'arrive vers la rive du fleuve Congo, j'ai rencontré des jeunes gens, des garçons très jeunes d'ailleurs, qui étaient en train de fabriquer ce filet. Il est très long et il ressemble à un filet de tennis. Donc à peu près exactement la même chose. Et c'est ce filet-là qu'ils installent dans l'eau. Et après quelques temps, ils viennent reprendre ce filet. Ils y trouvent du poisson.
Pendant que vous y étiez avec ces pêcheurs, Sylvie, est-ce que vous avez eu des explications sur la procédure de pêche, le lancer de filet et tout? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, nous l'ont expliqué. Écoutez d'ailleurs le petit entretien que nous avons eu avec un pêcheur.
Et voilà, vous avez appris quelque chose par rapport à la façon dont nos compatriotes font la pêche dans le fleuve Congo, de ce côté-là, autour de Kinkole. Sylvie Sona, est-ce que vous avez parlé avec ces pêcheurs sur un volet qui concerne souvent, et ça ils le disent, des difficultés qu'ils rencontrent dans la pratique de la pêche?
La première difficulté, c'est qu'ils fournissent beaucoup d'efforts physiques et que parfois ils s'épuisent en vain. Les filets coûtent assez cher. Vous l'avez entendu, ils ont dit que ça coûtait à peu près 200 dollars. Et ils viennent de Brazzaville en plus. Donc vous comprenez un peu pourquoi ça coûte aussi cher. L'un des pêcheurs que nous avons interrogé nous donne ici quelques précisions sur les difficultés qu'il rencontre.
Bon, la difficulté de la côte de la série Mboula, Mbongi, on a boué, la brise, on a boué. Si on boit, on met sa malam, on boit, 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 on auparavant, vous avez dit que 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 vous avez
dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
Bon, et l'autre aussi, c'est que nous avons dit que nous avons dit que pêcher. Vraiment, nous avons dit que 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 nous avons Oui, bah stopper que non, là nous sommes inanimés, la pêche, on est la pêche, nous sommes là, là, pour les arbres de sambis, parce que passe les kinam bouk.
Le sambis, il est expliqué, bisou.
Pour les arbres, ils ont besoin de sambis, moi, je m'occupe des arbres, non, mais écolité, moi, je m'occupe des sambis. mais ceux qui vont stopper, on qui n'a pas vu là, ça ne serait que non, bah puis si tu mets ça là, bah on voit bien, bah tu regardes bien pour ça nous avait que non, bah Thomson en est qui, nous tout le monde vient de nous biser, nous avons besoin vitamine B.
Voilà, on vient d'entendre ces pêcheurs qui donnent quelques pistes de solutions au-delà des difficultés qu'il a soulevées. J'en ai noté deux principalement, c'est qu'ils voudraient qu'il y ait un calendrier de pêche, qu'on puisse pêcher de façon saisonnière, et ça c'est important. Question de faire une pêche écologiquement équitable. Hein,
pour... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros poissons. Nous avons vu des tout petits poissons là.
Presque des frétins à la limite.
Oui. Hein. Et si on attend, ces poissons peuvent grandir. Et puis... Mais ils le font parce qu'ils doivent survivre.
Voilà. Et l'autre piste de solution, c'est qu'ils demandent qu'il y ait une pêche industrielle comme ça fonctionne dans d'autres pays. Parce qu'il en parle. Est-ce que vous qui venez de Kinkole, est-ce que vous avez vu peut-être des rudiments ou des fondations, des chantiers de pêche industrielle, Sylvie?
Non. D'ailleurs, c'est eux qui nous l'ont dit. Il n'a jamais existé une quelconque pêche industrielle à Kinkole. Mmh. Ils le disent dans la mesure où ils sont tous fils de pêcheurs, ils en savent quelque chose. Mmh. Rien n'a évolué. Ils utilisent toujours la même technique que leurs parents.
Mmh. Alors, au niveau Sylvie, quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour essayer de corriger des difficultés ou pallier à certains inconvénients? Comment font-ils, par exemple, pour se protéger des ngoubous, hein, ça c'est ce qu'il a dit tout à l'heure.
Les hippopotames.
Les hippopotames.
Ils nous ont renseigné que depuis l'apparition de ces hippopotames, sur le fleuve Congo donc, ils ont averti la marine, mais que celle-ci ne leur a toujours pas apporté de solution. Ils ont déclaré que la seule solution qui reste pour eux, c'est l'honnêteté.
C'est-à-dire
selon eux, un hippopotame ne dévore pas n'importe qui. La mer... Lorsqu'on va en mer, la seule protection, c'est de ne rien devoir à qui que ce soit. D'être pur. Lorsque tu es pur en allant en empruntant la mer, rien ne t'arrivera. Et si, par exemple, tu as volé quelque chose, tu as pris quelque chose de t'appartenant pas, ou bien tu as des problèmes avec des gens, ben, le cygne indien peut te suivre et que l'hippopotame peut te bouffer.
C'est comme pour dire qu'il y a des croyances mystiques dans le fleuve.
Oui, ils y croient beaucoup, il faut le dire. Ils y croient beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais peut-être déposé mon sac à côté là. Ils m'ont dit non, j'ai eu peur des voleurs. Non, ici on ne vole pas. Il n'y a pas de voleurs ici. Personne ne peut te prendre quoi que ce soit parce que nous on est des pêcheurs. Depuis nos aïeux, on nous a toujours dit qu'un pêcheur ne volait pas. Un pêcheur est honnête parce qu'il il va en mer et la mer c'est l'inconnu. La mer c'est un mystère.
Oui, tout à fait.
C'est un comportement qu'ils ont toujours affiché. Nous n'avons pas pu vérifier ces faits là, mais. Nous ne savons pas sur quoi ils se basent pour dire de telles choses, mais c'est ce qu'ils nous ont dit.
Je peux confirmer cette croyance chez les pêcheurs pour avoir passé plus de 20 jours sous le fleuve Congo qui s'est gagné en Bandaka. On ne faisait qu'entendre ces genres d'histoires sur les pirogues avec tout le monde qu'on retrouvait. Mais revenons aux poissons, laissons les mystères à la réalité naturelle parce que ça fait partie des croyances. Quels sont les types de poissons qu'on peut trouver dans le fleuve Congo, du moins au niveau des Kinkole?
Avant que je ne vous énumère quelques poissons, je vais vous dire, Walter, que j'étais très étonné. Et les poissons que j'ai vus pour la première fois de ma vie, des poissons, des beaux poissons. Rien que le fait d'imaginer que ces poissons-là seront mangés, ça m'a un peu même choqué parce qu'ils sont tellement beaux.
Bienvenue dans le monde de la conservation de la nature. Quand vous avez ces sentiments-là, ça veut dire que vous allez...
toute diversité. Toute diversité, Walter. J'en connais quand même quelques-uns. Il y a des malangois, des mbotos. Je ne connais pas les noms en français. Il y a les mbotos, les malangois, les mungusu, les ngolo, les mbete. Il y en a tellement et tellement. Il y en a tellement que je ne peux point les énumérer. Et une diversité de poissons, Walter.
D'une beauté extraordinaire, indicible. Vous manquez même les mots pour les dire.
Certains dont je ne connais même pas les noms.
Voilà.
Que je n'ai jamais vus.
Et pourquoi? Pourquoi continuons-nous à consommer du poisson de l'extérieur alors qu'on a autant d'espèces?
On a autant d'espèces et j'ai même vu des tortues.
Ah, des tortues de mer.
De mer.
Voilà, il y en a beaucoup.
Il y en a tout plein.
Il y en a beaucoup sur le fleuve Congo. J'en ai vu une grosse qui avait au moins un diamètre de 70 cm de long et à largeur autour de 50. Très gros alors.
Et il faut souligner, Walter, que vous avez dit en début d'émission que Kinkole était une bourgade. C'est à peu près une ville semi-rurale. Il faut voir les habitants. Ils sont en très bonne santé.
Ben voilà, parce qu'ils mangent du poisson.
Parce qu'ils mangent du poisson.
Naturel.
Un bon poisson, frais.
Il convient donc de permettre à toute la population de consommer ces poissons, que le ministère de la Pêche subventionne ces pêcheurs. Ils ont demandé la pêche industrielle, ils ont demandé un calendrier des pêches pour qu'ils puissent consommer des poissons en âge d'être consommés et laisser les petits poissons vivre et grandir. Nous savons qu'il existait une entreprise de pêche industrielle à Mwanda dans le Bas-Congo. Cette société est tombée en faillite depuis plusieurs années. On ne sait pas ce que ça devient. Nous allons recevoir dans ce studio le chef de division de la pêche au sein du même ministère. Avec lui, peut-être, on apprendra des choses intéressantes par rapport à la relance de la pêche industrielle. Il y a aussi notre site de pêche à travers la RDC, dans le Bas-Congo, en Équateur, dans le Kivu, dans l'Ituri, dans la province orientale, autant d'endroits. Mais pourquoi, bon sang, on mange encore du congelé alors qu'on a du frais? C'est à suivre. Sylvie, merci beaucoup pour nous avoir fait rêver avec cette diversité des espèces de poissons. Alors, à qui coller seulement, hein? On n'a pas tout énuméré.
Merci, Walter.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Nous allons rentrer dans ce monde du poisson en recevant monsieur Kofi Mulumba Casimir. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes le chef de division au ministère de la Pêche et Élevage. Vous avez entendu des pêcheurs de Kinkolé parler des difficultés qu'ils rencontrent. C'est notamment le fait qu'ils ne pêchent pas suffisamment. Tout ce qui sort de l'eau, c'est parfois des tout petits poissons. Et un d'eux a reconnu que c'est pas bien. Il faudra publier un calendrier de pêche. Est-ce que ça existe?
Oui, merci d'abord de m'avoir invité à votre micro ce matin pour parler brièvement de la situation de la pêche en République démocratique du Congo. Bien, je viens de suivre les déclarations des pêcheurs à Kinkolé. Effectivement, ils connaissent pas mal de problèmes, de contraintes, qui sont liés essentiellement aux problèmes que nous connaissons dans les pays en voie de développement. Mm. Donc ce ne sont pas vraiment de contraintes spécifiques au Congo. On en trouve un peu partout dans les pays sous-développés. Mm. Alors pour revenir au cas rencontré auprès de pêcheurs que nous appelons communément artisans-pêcheurs, nous savons que jusque-là, il y a l'État congolais ou l'État zaïrois
à l'époque
n'a fourni aucun effort pour soutenir les pêcheurs artisans. Mmh. Alors que nous savons que ces pêcheurs, cette catégorie de pêcheurs qui fournit la quantité la plus importante de poissons de production locale, production nationale. Leur pouvoir d'achat, très limité, ne leur permet pas de s'approvisionner facilement en intrants de pêche. Sur le marché local, à Kinshasa, il n'y a pas assez d'intrants. Et si on en trouve, ils ne sont pas de bonne qualité. Voilà pourquoi ils sont obligés chaque fois de traverser de l'autre côté pour en chercher.
Et là, l'autre côté, c'est Brazzaville. Parce qu'un auditeur qui nous écoute à Goma, l'autre côté, c'est...
Évidemment, nous sommes à Kinshasa.
Ou ceux qui sont à Zongo, l'autre côté, c'est Bangui.
Nous sommes à Kinshasa. Quand on parle de l'autre côté, c'est-à-dire c'est
Brazzaville.
Ceux qui sont à l'est du pays, c'est soit dans les pays limitrophes.
Ouganda,
Rwanda,
Zambie.
Effectivement. Alors, je disais qu'ils ont énormément de difficultés, d'abord, pour s'approvisionner en intrants de pêche. De deux, il y a aussi l'instrument du travail, les pirogues, qui ne sont pas vraiment appropriées.
C'est des coques presque pourries.
Oui, des fabrications artisanales, vétustes. Mmh. Hein, donc, ils ne sont pas vraiment propices pour un rendement meilleur. Il y a ce qu'on appelle aussi l'outil de pêche, dont les intrants, qui servent à fabriquer les
filets,
différents types de filets, qui ne sont pas de bonne qualité.
Il y a des mailles différentes.
Oui, des mailles différentes, parce que filochées par eux-mêmes, mais sans aucune notion technique appropriée pour pouvoir le faire. Voilà, ce sont tous ces éléments réunis ensemble qui font que le travail du pêcheur n'est pas aisé.
Quelles sont les solutions que propose le ministère de la pêche?
Merci pour cette question. Bon, déjà en 1987, il y a le ministère de l'Environnement qui, à l'époque, avait dans ses attributions les secteurs de pêche, avait organisé un grand séminaire justement pour analyser et proposer des pistes et des solutions.
C'était quoi ces pistes et des solutions?
On est arrivé à produire les plans directeurs de pêche de Zaïre à l'époque, qui donnait certaines pistes, notamment soutenir les pêcheurs artisanaux par l'approvisionnement ou bien la distribution à des prix préférentiels, les intrants de pêche.
Où est-ce qu'on en est avec cette résolution-là?
Cette solution n'a pas été exécutée.
Pourquoi?
Du moins, le plan directeur de pêche n'a jamais été mis en application à cause du climat politique, qui n'ont pas vraiment permis la mise en œuvre de ces plans directeurs. Pas plus loin, en 2000, il y a les ministères de l'Environnement toujours, parce que la pêche était encore sous le ministère de l'Environnement, a organisé un forum national où on a effectivement constaté la défaillance du plan directeur de pêche et on a proposé d'autres pistes qui malheureusement, encore jusqu'à aujourd'hui...
On est en 2004, 2005...
On est en 2005, rien n'est fait. Du moins, les solutions sont... Enfin, les propositions sont là, mais n'ont jamais été exécutées. Mais en bref, ce qu'il faut pour le moment, parce que nous savons que c'est le pêcheur artisan qui produit l'essentiel de poissons, il faut le soutenir. Le soutenir parce que c'est bien ce... c'est bien, cette action qui peut amener une production additionnelle à la production actuelle.
Comment les soutenir?
Par la distribution des intrants de pêche, tout simplement, par mise en place d'un système de microcrédit, tout simplement.
Alors, il y a une question, par exemple, d'un Marcel Mutombo qui nous appelle de Kananga et dit qu'il y a certains pêcheurs qui sont prêts à acheminer du poisson frais ou séché vers la capitale. J'imagine que c'est du Kasaï occidental, mais il y a trop de taxes au niveau des compagnies d'aviation et certains services de l'État. Que faire?
Oui, ça, c'est le problème lié au transport qui fait que effectivement le marché des poissons n'est pas bien organisé.
Voilà.
Parce que, comme je vous ai dit déjà, le producteur a des moyens très limités. Et après le producteur, il y a toute une chaîne d'intermédiaires.
Voilà.
Et surtout des mamans que nous appelons communément des mamans mareilleuses.
Oui, oui, oui.
Qui pratiquent des prix du simple au double, c'est-à-dire de la production à la consommation, les prix vont du simple au double. Parce qu'il n'y a pas de structure des prix. Et c'est un marché libre.
Et pour revenir au producteur, Monsieur Casimir, il demande qu'il y ait quand même un calendrier de pêche parce que on sort de l'eau des poissons qui ne sont pas prêts à être consommés, c'est pas bien, on risque d'avoir une perte d'espèces finalement.
Mais ça n'a rien, cette question n'a rien à voir avec le calendrier de pêche parce que le calendrier a toujours existé, ils le connaissent. Bon, malheureusement, il y a l'État qui n'a jamais veillé sur le respect de ces calendriers. Eux-mêmes savent que généralement que les moments les plus propices des pêches sont les périodes de saison sèche. Il y a mini saison sèche qui va commencer bientôt de janvier à mars et la grande saison sèche de juin en septembre pratiquement. Mais le problème de filet, de mailles de filet, est lié aussi à l'absence des services de l'État pour la surveillance. Ils savent très bien qu'ils ne doivent pas utiliser ce genre de filets. Parce que ce genre de filets ne font pas de sélection. hein, ne sélectionne pas.
Prends tout,
ramasse tout sur dans le passage.
Nous allons avoir des occasions plus importantes de rentrer dans cette question de pêche. C'est important parce que notre pays doit avoir beaucoup de poissons. Ouais. Pour l'instant, vous remercie d'être venu et on se donne rendez-vous pour très prochainement.
Ok, je vous remercie.
Deuxième partie de Okapi Action, c'est à suivre dans quelques instants. Il y a très peu de filles dans les écoles à Fizi et Baraka. Nous sommes dans la plaine de la Ruzizi à l'est de la RDC. Comment encourager les filles à accéder à l'école? Certaines astuces sont envisagées. Nous irons à la rencontre d'un préfet qui a trouvé une bonne, et alors une bien bonne astuce. Voulez-vous le savoir? Restez branchés, ne quittez pas, ça sera tout à l'heure. Et puis les examens ophtalmologiques coûtent cher dans certaines villes, vous le savez. Les lunettes adaptées à son mal ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. Les malades de Mwanda sont privilégiés, nous sommes dans le Bas-Congo, parce que une organisation philanthropique distribue gratuitement des lunettes après examen ophtalmologique. Des réactions, des suggestions, faites comme tous les autres auditeurs, appelez au 081 890 68 90. C'est ce qu'a fait tout à l'heure monsieur Jean Matondo qui nous a appelé de Mongafula. Il a posé une question au directeur, au chef de division Casimir qui est encore avec nous ici en studio. J'aimerais vous la poser parce que après votre départ, on ne saura pas y répondre nous. Voici la question. Pourquoi l'État ne peut-il pas créer une entreprise de pêche industrielle? Et au niveau interne, pourquoi ne prennent-ils pas cette initiative? D'aucuns pensent que la plupart des pêcheurs n'ont pas fait de grandes études. C'est pourquoi ils sont incapables de prendre ce genre d'initiative. Monsieur le chef de division, comment réagissez-vous à cette réaction de notre auditeur
Jean? Oui, je vois tout de suite là qu'il n'est pas bien informé sur l'historique de la pêche dans notre pays. Nous savons que à l'époque, il a existé une société dénommée Pemarco, qui signifiait dans le temps la pêcherie maritime du Congo, qui était une qui pratiquait une pêche industrielle. Malheureusement, cette société n'existe plus aujourd'hui à cause de méfaits de la zaïanisation et de la mauvaise gestion. Il y a eu des sociétés privées qui ont tenté de l'aventure, notamment la pêcherie industrielle de Mwanda, appelée communément PIM. Il y avait Ferzaba, si je ne me trompe pas de nom. Il y en a tant d'autres. La dernière, c'était une société des opérateurs économiques des nationalités coréennes. Hein, qui ont cessé cette activité il y a bientôt une année. Et s'ils suivaient bien l'actualité dans notre pays, l'État a essayé de créer une nouvelle société de pêche industrielle, qui est la Société congolaise de pêche, en abrégé SOCOPE, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'existe que dans le nom.
On va pas les résultats.
Il n'existe que dans le nom parce que cette société qui devait être opérationnel il y a 2 ans, n'a jamais démarré pour peut-être des raisons techniques qui ne sont pas encore confirmées jusqu'à ce jour. Et comme nous le savons, regardant la carte du Congo que je vois à côté, vous voyez que le Congo n'a pas un espace maritime assez vaste. Nous avons la côte maritime qui a une longueur d'à peu près à 40 km. Et ce que nous appelons en technique le triangle maritime congolais ne permet pas l'exploitation optimale de pêche industrielle. D'où, à l'époque, il y avait des accords préférentiels avec les pays limitrophes comme l'Angola, qui permettait aux bateaux de l'ex-Pemarco d'accéder dans ces eaux territoriales, ce qui avait permis quand même à Pemarco de fonctionner normalement. Mais avec le climat politique, ces accords se sont estompés. Pemarco, ce sont des raisons techniques justement du déclin de Pemarco, s'est vu son espace réduit. Lui, il ne pouvait plus opérer convenablement. Donc, lié au problème des aériens dont je viens de citer, ça a précipité les déclins de la société Pemaco.
On est d'accord qu'il y a urgence qu'on puisse relancer la pêche industrielle.
Oui, il y a urgence, c'est pourquoi il y a la création.
D'abord d'appuyer les artisans pêcheurs.
Oui, ensuite. Je manquais de répondre à cette préoccupation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est exclu de parler de pêche industrielle sur le fleuve. C'est-à-dire que le fleuve ne s'apprête pas à la pratique de pêche industrielle, même pas de pêche semi-industrielle. Parce que quand on parle industrie des pêches, on voit des gros moyens, des grandes infrastructures. Donc, par exemple, un bateau à chalut ne peut pas opérer sur le fleuve.
Oui, tout à fait.
Le problème, je y reviens, c'est-à-dire, c'est tout simplement d'appuyer l'effort de pêcheurs artisans avec des pirogues améliorées, motorisées, avec les outils comme les intrants de pêche perfectionnés. Bien sûr, on doit les former aussi à bien tisser le filet.
Mais est-ce que sur la côte de Moanda, on peut faire l'industriel, la pêche industrielle?
Oui, on peut faire la pêche industrielle, bien sûr, en relançant aussi la négociation des accords préférentiels pour que nos bateaux puissent accéder
dans les eaux
territoriales de pays voisins.
Merci beaucoup, on se retrouvera. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Bonne année et joyeux Noël.
Merci à vous autant.
Merci beaucoup.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Okapi Action, nous voici repartis pour la deuxième partie de votre magazine. Nous nous rendons à l'est de la République démocratique du Congo pour faire ce constat avec nos reporters sur place. C'est qu'il y a très peu de filles dans les écoles de Fizi et Baraka. Comment encourager les filles à accéder à l'école? Certaines astuces ont été envisagées. Nous allons découvrir l'astuce d'un préfet qui a trouvé vraiment une bonne, une vraie bonne. Vous voulez le savoir? Restez avec nous ensemble, joignons notre consoeur Astrid Mujinga, qui est sur place à Bukavu, qui s'est rendue à Fizi et Baraka tout récemment. Astrid, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, vous êtes revenu de Baraka. Pouvez-vous nous confirmer si oui ou non, les filles sont très peu nombreuses à l'école?
Affirmatif, Walter, en effet, à Baraka, les filles sont très peu scolarisées. Nous avons visité quelques écoles du milieu, qui ne sont pas très nombreuses, bien sûr, mais dans ces écoles, les filles se comptent sur le bout des doigts. Et, par exemple, sur les 366 élèves que compte l'Institut Mwenge Wataifa, la plus grande école secondaire de Baraka, il n'y a que 46 filles. Le lycée Mamayemo, ils ont encore les appellations du temps de Femobout, bien sûr. Le lycée Mamayemo, qui était une école de filles, est devenu une école mixte. Et les filles ne représentent plus que 15%. Nous avons posé des questions à quelques responsables scolaires, aux élèves, garçons comme filles, et aux parents, pour savoir à quoi est dû cet état de choses. Et suivez plutôt la réponse du préfet des études d'une école secondaire de la place.
C'est lié un peu à la coutume, parce que la fille ici chez nous, elle arrive au second rang. Et le parent, surtout pendant la difficulté, pendant les guerres comme ça, préfère en fait envoyer les garçons aux études que les filles. Parce que les filles, en fait, comme je disais, qui occupent le deuxième rang, on s'intéresse pas beaucoup aux études de filles.
Et voilà, on vient d'entendre le préfet des études d'une école secondaire de la place, Astrid, au sujet de l'appellation lycée Mamayemo. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Ça fait partie de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est le nom de cette école. Vous vous appelez Astrid Mujinga. On ne va pas changer quel que soit le régime. Non, mais enfin, c'était une parenthèse. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Astrid, que vous avez rencontré quelques jeunes gens à Baraka. Comment est-ce que eux, ils expliquent le fait qu'il y a très peu de filles dans les écoles?
Oui, Walter, pour certains jeunes gens, ce sont les filles elles-mêmes qui seraient responsables de cette situation, car elles préféreraient, bon, selon ces jeunes gens, elles préféreraient se marier trop vite plutôt que de poursuivre leurs études. Alors si on pouvait écouter un de ces garçons interrogés sur place.
Oui, il paraît que ici les filles n'étudient pas beaucoup.
Oui, c'est vrai ici.
Pourquoi?
Parce qu'elles veulent se marier plus tard.
Mais il paraît que ce sont les parents qui poussent les filles à se marier vite.
Moi, je pense que ce ne sont pas les parents, mais c'est les filles qu'elles veulent.
Et voilà, les filles, la balle est dans votre camp. Réagissez, appelez au 081-890-6890. Il paraît que vous préférez vous marier plutôt que d'aller à l'école. Ça, c'est ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Prenez le téléphone, appelez au 081-890-6890 et dites-nous ce que vous en pensez. Je reviens à vous, Astrid, vous qui êtes à Bukavu, à 2000 km d'ici. Qu'est-ce que les filles ont répondu déjà, les filles que vous avez rencontrées sur place, en attendant d'autres réactions?
Ah oui, Walter, les quelques filles que nous avons croisées sur la cour de l'Institut Mwengi avaient d'abord du mal à nous répondre, car elles étaient vraiment intimidées par leurs camarades qui les accusaient d'aimer trop les garçons. Oh. Elles ont quand même reconnu que les filles sont très peu scolarisées, en fait, dans leur milieu. Elles ont également avancé, bien sûr, timidement, quelques raisons. On peut aussi suivre.
Bonjour, mademoiselle.
Oui, bonjour.
Tu t'appelles comment?
Sylvie.
Il paraît qu'ici, beaucoup de filles n'étudient pas ou bien ne continuent pas avec leurs études parce qu'elles veulent se marier. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ce sont les parents qui les poussent à se marier ou bien ce sont les filles elles-mêmes?
C'est les filles elles-mêmes.
Jambo dada.
Jambo sana.
Inaonekana kama wabinti wengi sana hawasome hapa. Lakini wanasema ni wachache ndio wanasoma
ndio.
Sasa jua nini wafie wengi wasome?
Wanasema jua kukosa malipo ya pesa.
Ouais, c'est là qu'on vient d'entendre, on dit que elles ne sont pas scolarisées parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour se payer les frais d'études. Astrid, bon, on a entendu les garçons, on a entendu quelques filles et les parents dans tout ça. Est-ce que vous avez recueilli leur point de vue?
Absolument, Walter. Les réponses sont souvent évasives. Les parents que j'ai interrogés avancent toujours le motif de pauvreté, alors que les garçons, eux, étudient quand même malgré cette pauvreté. Mais le préfet de l'Institut Mwengi, Charles Ngolo Senge, nous a parlé d'une stratégie qu'il a initiée pour encourager les filles à étudier. Nous pouvons suivre aussi ses propos.
Oui, il y a un stimulant parce que l'année passée, par exemple, parce que nous avons obtenu un maximum, 26 sur 26, le diplôme parmi... ses élèves, il y a deux filles et je suis même amené, n'est-ce pas, à l'engager ici comme professeur pour qu'elle soit plus ou moins comme un stimulus, n'est-ce pas, que la fille ne doit pas être telle oubliette, que la fille aussi trouve sa place au soleil. Et aussi, il y avait une politique que j'avais adoptée. Une fille qui vient faire inscrire une autre fille, les deux paient de moitié de frais. Avec ça, je pense que dans l'avenir proche, on pourra avoir un nombre beaucoup plus gonflé de filles. Faire en sorte que les filles ne payent pas la prime comme le garçon.
Et voilà, on vient d'attendre cette astuce, ça. Une fille, en tout cas, physique dans une école qui s'appelle Mwengi, une fille qui amène une autre fille à s'inscrire dans l'école, paiera la moitié des frais et sera exemptée d'autres frais. C'est intéressant comme idée, Astrid. Comment est-ce que autour de Baraka, de Fizi, les parents sont au courant de cette stratégie et comment la trouvent-ils?
Oui, bon, malheureusement, Walter, j'ai pas pu rencontrer encore les parents pour leur demander ce qu'ils pensent de cette proposition du préfet d'études de l'Institut Mwengi wa Baraka. Mais ce qui est probable, c'est que ils ne peuvent que accepter et plutôt se réjouir de cette initiative du préfet de l'Institut Mwengi wa Baraka. Je suis sûre qu'ils peuvent très bien, se réjouir de cette décision. Mais je ne sais pas jusque-là quelles sont leurs réactions, parce que
Je ne leur ai pas posé la question là-dessus.
En tout cas, c'est un bon cadeau de Noël pour les filles des fusillés de Baraka de payer les frais de moitié. Astrid Mojinga, merci beaucoup et joyeux Noël et bonne année à Bukavu.
Merci beaucoup, Walter, à vous par nom. Merci à tous nos auditeurs. Au revoir.
Au revoir, merci.
Okapi.
Okapi à Goma sur 105.2 FM.
On va peut-être continuer à passer en revue d'autres astuces par rapport à cette question, la fréquentation des filles à l'école, avec Monsieur Lutombo Walutombo, qui est dans le domaine de l'enseignement, évidemment pour la province du Sud Kivu. Dans quelques instants, le temps qu'on confirme s'il est en ligne ou pas encore. Non, Alain Ngoy n'est pas en ligne, notre invité pas encore. Mais en attendant, constater toutes ces questions, cette question que nous avons suscitée tout à l'heure avec la faiblesse pour la République démocratique du Congo de produire suffisamment de poissons alors que la RDC est suffisamment drainée par un grand fleuve, par des milliers de rivières, par des lacs, au moins 8 assez importants, et on constate dans certains endroits que les poissons meurent de vieillesse pendant que les Congolais, la majorité, disons dans les grandes agglomérations, préfèrent consommer du poisson importé, du poisson congelé, alors qu'il est possible d'avoir du poisson frais pour une très bonne santé. Une parenthèse encore, il paraît, selon les nutritionnistes, en tout cas des recherches très récentes, que ceux qui consomment les poissons frais et bien sont à l'abri de beaucoup de maladies et il y a la longévité de vie qui augmente. Ce sont des recherches assez poussées que nous évoquons. On en parlera un peu plus dans quelques instants.
Okapi.
Okapi à Goma sur 105.2 FM.
Au Café Action, nous revenons pour faire la boucle, le dernier round, la dernière aventure du magazine d'aujourd'hui. Nous allons à l'ouest de la République démocratique du Congo, au sud-ouest pour être plus précis par rapport aux quatre points cardinaux. Ça fait penser aux petits qui viennent de commencer les vacances de Noël. Ben, voilà, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais c'est plutôt pour constater que, vous le savez d'ailleurs avec nous, vous rappelez ce constat que les examens ophtalmologiques coûtent cher dans certaines villes. Et dans le Bas-Congo, notre confrère a remarqué que plusieurs personnes souffre de cataracte dans le Bas-Congo. Cette opacité du cristallin qui évolue vers une cécité partielle ou totale dans les pires des cas. Pour venir en aide de tant soit peu à ces personnes, le Lions Club, une organisation caritative, procède à la distribution gratuite des verres médicaux à Mwanda et dans les localités environnantes. Jody Keshema, pendant son séjour dans le Bas-Congo, a observé cela. Je suis heureux de l'accueillir à Kinshasa. Jody, bonjour.
Bonjour Walter.
Vous êtes en direct avec nous en studio. Bravo pour le travail que vous avez fait sur place. On revient à cette action caritative humanitaire, on peut le dire.
Tout à fait.
Et pour savoir, qu'est-ce qui a motivé les Lions Club à faire cette action?
Ben, il y a quelques années, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, avait lancé un cri d'alarme selon lequel beaucoup de gens dans le monde, surtout en Afrique, sont menacés par la cécité. Mm-hmm. D'après M. Bambi, responsable de la commission de la lutte contre la cécité au sein du Lions Club, cet état des choses a motivé son organisation, dont le siège est à Texas aux États-Unis, à collecter des lunettes et à les envoyer en Afrique pour une distribution gratuite aux malades. Et M. Bambi a indiqué en outre que l'on enregistre un nombre élevé de gens qui souffrent de la cataracte dans les campagnes au Bas-Congo, d'où le Lions Club intervient dans ces milieux où le besoin s'est fait de plus en plus sentir.
Il y a une inquiétude quand même, peut-être les auditeurs qui nous écoutent aussi peuvent s'en inquiéter. Est-ce que la distribution se fait comme on distribue des petits pains ou il y a un examen préalable qui est prévu?
Bien sûr, la distribution est précédée d'un examen médical pour déterminer s'il s'agit d'un trouble des visions de près ou de loin. Et cela moyennant 600 francs congolais. Mm. Une équipe du Lions Club a été formée pour faire des consultations sur l'acuité visuelle à l'aide d'un instrument appelé phocomètre. Mm. Alors c'est un instrument, c'est un appareil de qualité qui détermine rapidement le degré de l'acuité visuelle du malade et détermine aussi l'unité qu'il faut pour corriger les troubles de vision.
Pendant que vous y étiez, Jody Keshama, est-ce que vous avez peut-être vous êtes tombé sur des chiffres, des statistiques pour savoir combien de verres des lunettes ont déjà été distribués par le Lions Club à Moana et dans les environs?
Oui, plus de 5000 verres médicaux ont été distribués, d'après M. David Bambi, chargé de la lutte contre la cécité au sein de cette organisation.
Nous avons une bonne information par le Lions Club International de Texas. À partir de 2000 ans, nous avons commencé à travailler à la région. Depuis ce moment-là, nous venons d'examiner plus de 4000 personnes. Et nous venons de distribuer plus de 5000 paires de lunettes. Et ça marche très très bien. Les lunettes, en général, les deux visions, entre vision de loin et vision de près. À Moanda, ici, nous venons distribuer plus de 3700 paires de lunettes. Et la ville de Boma, il vient avoir aussi plus de 1000 quelque chose. C'est ça qui totalise plus de 5000 paires de lunettes que vous venez distribuer.
Et il y en a encore suffisamment pour d'autres malades?
Oui, nous avons encore pour 2 ans.
David Mbambi, chargé de lutte contre la cécité pour le Lions Club district, je sais pas, ils sont subdivisés en districts. Ouais. C'est le même district qui parle de Kinshasa, hein?
Non, c'est le district,
de Moanda. Ouais. Ok, voilà, le district de Moanda. Est-ce que c'est un district ou c'est une autre entité? Que les amis Lyon nous en excusent parce que nous n'avons pas pris le soin de maîtriser la subdivision et la répartition de cette organisation. On aura l'occasion d'en parler un bon jour. Mais Jody, y revenons à la réalité de terrain. Est-ce que vous avez réussi à rencontrer quelques bénéficiaires de cette action philanthropique?
Oui, j'ai rencontré une personne qui est satisfaite des services rendus par Lions Club. Écoutez-le.
Je me suis rendu au centre ophtalmologique de Lions Club pour chercher des lunettes. Et c'était... Je me suis fait examiner encore une fois de plus, moyennant 600 francs congolais. On m'a remis une paire nette d'une unité. Donc ça m'aide pour lire parfois les documents. Quand vous venez ici, la solution est vite. Hein? On vous fait examiner sur les champs et on vous donne des résultats sur les champs. C'est-à-dire que nous ne savons pas. Ça pourrait avoir aussi d'autres services, mais nous préférons Lions Club parce que, ouais, que et ils ont ce sens-là, la rapidité, et puis ils font ça correctement.
Comment gratuitement parce que vous avez payé 600 francs?
Bon, les 600 francs, là, c'est pour se faire examiner. C'est le cas de dire, peut-être si une fois vous êtes dans un centre ophtalmologique, vous êtes examiné, dès que vous venez avec votre fiche, on vous donne gratuitement comme ça. Mais si au cas contraire, vous n'êtes jamais examiné, vous allez venir comme ça, vous faites examiner, on vous donne la lunette. Donc, ces 600 francs-là, c'est pour l'examen, mais la lunette est gratuite.
Alors, depuis que vous portez les lunettes, est-ce que ça va?
Oui, ça va, surtout ça m'aide pour la lecture. Vous savez, ici, la lecture, comme j'ai fait aussi ce métier-là, je donne le cours, ça m'aide parfois pour lire le document, bien préparer la matière que je vais dispenser vers.
Il faut reconnaître que les verres des lunettes coûtent assez cher, hein, à Kinshasa, c'est pas moins de $100, voire plus, Jody Keshama, parce que vous en portez vous-même, comparativement à ce qui se passe. Là, je demande votre point de vue, en tant que concerné par les problèmes des visions, les prix à Kinshasa sont plus élevés, nettement.
Oui, totalement. Le prix des lunettes à Kinshasa sont quand même élevés, il faut le reconnaître. Mm. Par exemple, les verres que je porte, je les ai obtenus à $50. Mm. Donc c'est quand même cher. Alors, vous voyez dans les campagnes, par exemple à Moanda et dans les localités environnantes, les gens sont vraiment démunis, ils n'ont pas assez de moyens pour se permettre de se procurer ces lunettes-là. Donc cette action de Lions Club est vraiment une action à encourager et à féliciter.
Ok, je reviens aux journalistes que vous êtes. Quels sont les moyens utilisés par Lions Club pour atteindre les populations, pour les sensibiliser davantage? On a appris plus de 3000 verres ont été distribués pour distribuer aux gens, pour les amener à se faire consulter. Il fallait les contacter. Comment le Lions Club est entré en contact avec les populations bénéficiaires?
Oui, le Lions Club lance un appel à tous les malades à travers les médias. Donc, en l'occurrence, sur les ondes de la radio communautaire de Mwanda. Et dernièrement, quand j'ai été, un communiqué est passé dans cette radio pour annoncer l'arrivée de l'équipe des Lions Club dans une localité appelée Kimbanza pour des consultations. Alors, tous les malades des localités environnantes ont été aussi invités à venir recevoir des lunettes gratuitement après, bien évidemment, une consultation.
Est-ce que cette équipe de Lions Club au niveau de Mwanda rencontre quelques difficultés dans l'accomplissement de sa mission, notamment dans le cas précis des problèmes liés à la cécité?
Oui, les difficultés ne manquent pas. La première, c'est que le centre du Lions Club ne dispose pas de médicaments et d'un service pour les cas d'intervention chirurgicale. Ce qui fait que certains malades, consultés depuis l'année 2002, gardent encore jusqu'à aujourd'hui leur ordonnance parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'acheter les produits prescrits. Ensuite, les malades qui doivent subir des interventions ne peuvent pas être opérés faute de moyens. L'opération coûte presque, c'est dans les $100 américains. Alors, ces malades reviennent de temps en temps au centre de Lions Club pour une assistance. Et en plus de ces difficultés, certaines unités manquent au centre ophtalmologique de Lions Club. Écoutons le responsable.
Mais il y a quelques unités qui nous manquent. La lunette qui nous manque, ce sont des petites unités de 45 ans jusqu'à 50 ans. C'est ça qui nous manque, surtout pour les lectures. Première unité jusqu'à une unité 75, c'est ça qui nous manque. Pour le viso de loin, ça commence à 0,75 jusqu'à troisième unité, c'est ça qui nous manque. Mais nous avons de 3 plus 4, 5, ça peut nager. Mais nous, on rencontre aussi des cas de 6 pour le plus 6, plus 7, plus 8, plus 12 même. Ça nous fait défaut pour le moment.
Voilà quelques indications sur des unités qui manquent au niveau du centre, si vous voulez, clinique de Lions Club au niveau de Mwanda.
Chapitre de Mwanda.
Chapitre, voilà. C'est chapitre de Mwanda. Vous vous êtes rappelé la dénomination de la subdivision.
Subdivision.
Chapitre de Mwanda de Lions Club. Voilà. Merci beaucoup, Jody, d'avoir fait cela parce que je suis sûr que les auditeurs Lions étaient en train de se demander, mais décidément, ces deux-là, ils ne sont pas renseignés au cours. Veuillez nous en excuser encore à l'astuce de ma part. En tout cas, je dis merci pour toutes ces informations. On aura en ligne depuis Mwanda, docteur Kiyimbi Ushidi, qui est médecin chef de zone de Mwanda. Celui-ci accompagne très souvent et régulièrement d'ailleurs l'équipe de Lions Club dans son travail. Pour l'instant, je vous souhaite de passer les quelques jours de congé que vous avez. Et puis, joyeux Noël, bonne année 2005. On se retrouvera la semaine prochaine avec vous, Jody.
Merci beaucoup, Walter.
Merci.
Okapi.
Okapi à Matadi sur 102 FM.
Nos relations remontent, on reste encore à Mwanda pour cette question de l'appui aux malades qui souffrent de cécité. On va plutôt parler avec le médecin chef de zone, la personne de docteur Kiyimbi Ushidi. Il est en ligne. Docteur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes médecin chef de zone des Mwanda. Je vous pose la première question qui est celle d'un auditeur qui s'appelle Bonache Tendecha. Il nous a appelé de Mbujimai. Il voudrait savoir quelle est la cause de cataracte que l'on traite, qu'on retrouve dans le Bas-Congo.
Bon, les causes de cataracte que l'on trouve ici chez nous, c'est plus lié aux différentes filarioses qui existent. Nous connaissons très bien qu'à Inga, là on trouve l'onchocercose, c'est une maladie qui entraîne une cécité qui est irréversible. Mais il y a d'autres types de maladies, de vision, telles que les cataractes, qui se soignent avec des interventions et on peut retrouver sa vision après.
Mais alors, comment vous traitez? Est-ce que vous êtes suffisamment équipé à Moanda pour traiter ces cataractes?
Bon, à Moanda, nous ne sommes pas suffisamment équipés, mais avec les amis de l'Alliance Club, nous passons dans des villages pour rechercher les malades qui présentent des troubles de vision. Et c'est pendant cette activité que nous décelons les malades qui présentent des signes de cataracte pour les préparer à une éventuelle intervention chirurgicale par des équipes d'ophtalmologie qui peuvent passer ou bien qui passeront ici dans notre zone de santé.
Une intervention chirurgicale dans cette zone coûte combien?
Bon, jusque-là, on n'a pas encore commencé à faire ces interventions. Je suis mal placé pour pouvoir vous donner un prix, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore procédé à ce genre d'intervention. Mais les amis de Lance Club sont en train de se préparer pour que une équipe de médecins qui viendront des États-Unis peuvent venir procéder à ce genre d'intervention. Puis chez nous, bien sûr, ils vont remplir toutes les formalités requises.
Docteur Kiyimbi, comment trouvez-vous cette intervention du chapitre de Lions Club de Moanda pour la distribution gratuite des verres, des lunettes?
Bon, je trouve que c'est une action qui est louable, d'autant plus que bon, la communauté étant démunie et ayant des troubles de vision, bénéficie quand même de cette faveur d'avoir des verres gratuits. Bon, c'est une activité que nous devons quand même apprécier à sa juste valeur.
Nous avons entendu tout à l'heure un des responsables d'un hôpital là-bas qui faisait allusion au déficit de certaines unités de verre. Comment ferez-vous pour pouvoir obtenir ces unités qui manquent parce qu'il y a des malades qui en ont besoin?
Bon, nous, à notre niveau, nous ne sommes pas vraiment équipés. Hein. C'est les amis de Lions Club qui ont leur filiale des États-Unis qui envoie ces lunettes. Et nous venons seulement en appui à cette équipe pour pouvoir aider la communauté.
Y a-t-il moyen, docteur, de prévenir tous ces maux de vision?
Bon, la prévention, c'est que les gens doivent avoir l'habitude de passer régulièrement dans des centres ophtalmologiques. À moins d'ailleurs d'un centre ophtalmologique, là, on peut faire l'examen de l'acuité visuelle. Et puis, on peut aussi faire les autres examens. Par exemple, si on est prédisposé à faire la cataracte, bon, à ce moment-là, on peut commencer déjà à prévenir par d'autres moyens sur le plan médical qui existe. Donc la prévention, c'est passer régulièrement, faire des examens des yeux comme l'acuité visuelle qui est déjà disponible ici.
Vous avez dit, si on est prédisposé à faire la cataracte, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui forcément doivent attraper la cataracte?
Bon, dans notre milieu, quand nous regardons la zone où nous sommes en train d'évoluer, il y a quand même des filarioses. Mais nous devons savoir aussi que la race noire est vraiment prédisposée aussi à pouvoir faire les maladies liées à la trouble de la vision.
Mais c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que les troubles de vision peuvent être héréditaires?
Oui, c'est pourquoi j'ai évoqué l'aspect de la race. La race noire, déjà à partir des 39 ans, 40 ans, nous avons déjà un déficit d'accommodation. Ça, c'est vraiment héréditaire, c'est lié à notre race.
Mais comment expliquer qu'il y a des petits-enfants de 8 ans, de 9 ans, 10 ans déjà qui portent des lunettes?
Bon, ça, c'est lié aussi à d'autres facteurs de notre civilisation actuelle. La lumière, les gens lisent beaucoup, les enfants regardent la télé, ils restent plusieurs temps. Bon, tout ça peut faire que des enfants puissent essayer un peu d'avoir des troubles de vision. Bon, moi j'ai dit ça un peu à notre civilisation actuelle. Bon, c'est tout à fait normal que l'on trouve des enfants déjà à cet âge-là présentés, mais nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité de l'hérédité et puis d'autres facteurs environnementaux.
Lorsque vous parlez de la télévision, on sait que les vacances ont commencé et donc même parfois dans certains milieux, la télévision remplace parfois les parents. Les temps passés devant la télé chez les enfants est parfois plus élevé que le temps qu'on passe à discuter avec son père ou sa mère ou ses frères. À quelle distance doit-on être de l'écran de télévision pour éviter effectivement de pouvoir abîmer ses yeux?
Bon, en tout cas, excusez-moi, là-dessus, je n'ai pas vraiment de précision pour donner la distance requise. C'est mieux de contacter un ophtalmologue, les spécialistes, ils peuvent bien donner des distances, mais à mon niveau, je n'ai pas vraiment d'éléments, excusez-moi, là-dessus.
Ok, je vous le conseille, docteur Kiyimbi, mais pour revenir à cette espèce de prédisposition, on parle même de l'oncocercose autour de Inga, les possibilités qu'on avait déjà évoquées une fois, je pense avec vous, parce que avec d'autres spécialistes par là, on évoquait la possibilité de développer des grands moyens de pouvoir pulvériser certaines zones. Est-ce que c'est en voie, c'est envisagé pour essayer de prévenir l'oncocercose de ce côté-là?
Bon, je pense au niveau de la coordination provinciale de l'oncocercose, il y avait des enquêtes qu'on avait faites dans des zones de santé du Bas-Congo pour pouvoir déterminer le niveau de l'endémie. Alors, on avait classé des zones de santé en zones de santé hyper endémiques, méso endémiques et hypo-endémiques. En fonction de la classification de chaque zone de santé, il y avait des types d'activités qu'on devait développer pour pouvoir faire face à l'oncocercose. Bon, Inga se trouve déjà au niveau hyper-endémique. Là-dessus, je pense qu'il y avait l'activité de distribution de l'ivermectine au niveau de la communauté à travers les relais communautaires. Et puis, à part ça, il y a d'autres mesures de prévention que la coordination est en train de mettre au niveau de cette zone de santé de Inga et puis les zones classées hyper et méso-endémiques. La zone de santé de Mwanda est classée parmi les zones hypo-endémiques, donc nous ne sommes pas vraiment du tout concernés avec le problème de l'oncocercose.
Oui, docteur Kiyimbi Ushidi, lorsque les médecins spécialistes, les partenaires de Lions Club pourront arriver à Mwanda, que des malades sont en train d'être préparés pour éventuellement subir une intervention chirurgicale. On sait que généralement c'est autour de $100 américains une intervention chirurgicale par rapport au mot des yeux. Est-ce que vous pensez qu'avec le pouvoir d'achat des populations autour de Mwanda, ces malades pourront être capables de prendre à charge ces frais?
Bon, les actions de l'AND Club là-dessus visent à ce que ces interventions ne puissent pas vraiment peser à la communauté. Bon, je pense à leur niveau, ils auront à contacter le club des États-Unis. Ce sont ces clubs-là qui vont s'organiser. Bon, en ce qui concerne les coûts, selon ce qu'ils m'avaient rassuré, en tout cas, ça ne va pas peser, hein, pour ne pas dire que ça sera pas vraiment difficile à notre population de pouvoir faire face au prix. Mais jusque-là, je n'ai pas de précision, mais ils ont dit que ça ne sera pas vraiment quelque chose qui va déranger la communauté.
Voilà qui est bien dit, docteur Kiyimbi Ushidi. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes médecin en chef des zones de Mwanda. Vous accompagnez très souvent l'équipe de Lions Club dans ses interventions médicales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs. Nous vous souhaitons de passer une excellente fête de Noël et recevez nos voeux de bonheur pour bonne année 2005.
Ok, merci beaucoup. À la prochaine occasion.
Merci beaucoup, docteur. Okapi Action, nous allons nous quitter dans quelques secondes. Il y avait Kabongol Jérôme qui a posé une question en province de Goma. C'était en réaction avec le sujet de toutes les filles à l'école. Est-ce que ce programme s'est réellement réalisé? On ne voit pas les actions concrètes. Les filles sont toujours chassées de l'école. L'astuce que nous, dont nous vous avons parlé, c'est passe dans une école à Baraka qui s'appelle Mwengo Taifa, où le professeur de cette école demande aux filles qui amèneront d'autres à se faire inscrire à l'école de payer seulement la moitié des frais exigés. C'était la situation dans la plaine de la Rosizi. On avait promis évidemment aux auditeurs de faire le point avec les animateurs de ce programme au niveau de l'UNICEF, de nous dire ce que ça aura donné comme résultat à mi-parcours. Au Capi Action, c'est terminé. Toute l'équipe des productions vous remercie de l'attention particulière que vous avez prêtée à ce magazine. Elle se réjouit de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa. Et toujours avec le même plaisir. Alain Goy était à la mise en onde, Nathalie Moutéba à la régie. Au micro, il y avait Walter Molondi. Merci beaucoup.